Bonjour à tous. Dans ces périodes de grande incertitude pour l'humanité au sens large et puis pour le monde artistique en particulier, La Monnaie met en ligne sur son site internet en streaming Is This the End, l'opéra de Jean-Luc Favchant sur un livret d'Éric Bruchet et dans une mise en scène d'Eric von Wantoch-Rakowski. Jean-Luc Favchant est avec nous, on va parler de cette production. Bonsoir Jean-Luc Favchant.
Bonsoir Camille Derek.
Alors, la première chose qu'il faut dire par rapport à cette production, c'est qu'il est rare qu'un compositeur travaille à un opéra dans des délais aussi courts. Pour être totalement sincère, la saison de La Monnaie allait s'ouvrir sur un autre opéra. Vous étiez vous-même en train de travailler sur ce projet qui devait être un triptyque. Et puis l'épidémie ayant fait son œuvre, vous vous êtes retrouvé avec la programmation de cet opéra à plus ou moins court terme. Tout le monde s'est dit, vous le premier, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis par rapport au fait que ce soit possible, effectivement, de créer un opéra dans des délais aussi courts?
D'abord, c'était un opéra qui devait avoir un format assez particulier, puisque ça devait être en streaming et durer environ 45 minutes. Bon, au bout du compte, c'est un peu plus de 50, mais. Donc, ça, déjà, ce n'est pas un opéra de 3 heures, quoi. D'autre part, depuis le temps que je travaillais sur ce projet, enfin, qu'on travaillait d'ailleurs avec Ingrid et Eric, j'avais déjà quelques esquisses et aussi j'avais l'idée de transformer une ancienne composition pour la fin de cette pièce, pour en faire quelque chose à la fin. Donc, si on veut, sur les 50 minutes, au bout du compte, j'en avais déjà 15. À partir de ce moment-là, écrire une demi-heure de musique en 2 mois, d'autant que j'étais à fond dans l'idée, à fond dans cette instrumentation, j'avais très, très longuement déjà réfléchi à ce que je voulais faire avec les voix, ça m'a paru possible. Alors, ça n'était possible que parce que on sortait du confinement et qu'au fond, il n'y avait rien de prévu. C'est-à-dire, je n'avais que ça à faire. Terminer un peu mes cours et mes examens, et puis faire ça, faire ça, faire ça. Donc, j'ai passé quelque chose comme 12-14 heures par jour là-dessus. Je veux dire, c'était un grand moment d'exaltation. Et ça a produit ce que j'espérais. Après, si on ne trouve pas dans ces cas-là et qu'on est bloqué, c'est la catastrophe. Mais si on trouve et que ça vient comme ça, comme naturellement, alors c'est vraiment un grand moment d'exaltation, ce que j'ai connu à ce moment-là.
On va parler de la pièce dans un instant parce que cette pièce, dont le titre est une question, semble faite sur mesure pour la période qu'on vit. Or, elle était en maturation en vous depuis bien avant que cette période nous tombe dessus. Mais j'aimerais parler de votre rapport à l'opéra. Est-ce que vous faites partie de ces compositeurs qui a une passion innée pour l'opéra ou bien c'est un genre que vous avez dû apprendre sur le tas?
Alors, j'ai une passion pour le théâtre et dedans le théâtre musical. J'ai avec l'opéra une relation plus polémique, on va dire. C'est-à-dire que j'adore l'opéra, mais je ne suis pas nécessairement très excité toujours, parfois oui, très fortement, mais pas toujours, par la manière dont on chante à l'opéra. C'est-à-dire que quand les voix sont à la fois sublimes, rondes et avec un vibrato supportable, alors je tombe en pamoison. Mais dès qu'il y a un de ces 3 points qui manque, un manque de rondeur ou surtout un excès de vibrato, je crois que je suis prêt à grimper au mur. Donc voilà, je suis très difficile là-dessus. Ayant beaucoup travaillé, notamment avec mon épouse, dans les chansons, les musiques plutôt chantées au micro, ou en tout cas pas avec des voix. Je dirais affecter du turbo classique. Je dois dire que j'ai pas tellement besoin que les voix hurlent. Donc j'aime bien quand elles sont capables de chanter des choses avec un peu d'intériorité. Et en plus, il y a autre chose que souvent les amateurs d'opéra aiment beaucoup et que pour ma part je n'aime pas tellement, c'est des affectations dans le sentimentalisme. C'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre d'une quand on exagère les sensations, les sentiments, les expressions. Alors tout d'un coup, on se dit, wow, ça c'est vraiment quelqu'un qui a senti les sentiments, etc. C'est comme une espèce de Stanislavskisme à l'envers qui peut me hérisser. Donc je suis très critique sur l'opéra, mais pour moi, c'est un des plus beaux accomplissements de la musique classique, voilà. Enfin, de notre musique, on va dire en général.
Bon,
C'est
vous
quoi?
ouvrez
C'est
des.
les gens qui chantent, c'est de la musique souvent extrêmement prenante, très lyrique, donc j'adore ça. Oui.
Vous ouvrez des tas de portes là et on les empruntera dans un instant. Avant ça, parlons de Is This the End? pièce en forme d'interrogation. Alors, sur quoi porte l'interrogation ici? Is this the end? Est-ce la fin? Ma foi, sans doute, mais au-delà de ça.
Ben, là, évidemment, quand on se demande est-ce la fin, c'est la fin de quoi, bien sûr. Sinon, la question ne veut rien dire. Bon, donc, il y a évidemment déjà une forme d'humour dans le titre, en tout cas de fantaisie. Alors, en l'occurrence, l'histoire, ici spécifiquement, la partie écrite, c'est le premier volet qui s'appelle Dead Little Girl. Donc, en l'occurrence, l'histoire de l'opéra se situe dans un moment très particulier de la vie qui est plutôt la mort, ou le début de la mort, les limbes. Ce moment où les gens découvrent qu'ils ne sont plus vraiment là, mais en fait qu'ils ne sont pas encore vraiment partis. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, eux non plus, et donc ils ne savent pas trop où aller. En l'occurrence, la gamine, là, dans le premier volet, elle ne sait pas du tout où aller. Elle est vraiment complètement perdue. On va voir que les deux autres personnages de l'histoire on va dire des contacts assez différents avec ce moment de leur vie. Donc, est-ce que c'est la fin de la vie ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est en filigrane dedans, est-ce que c'est la fin de notre civilisation? Mais enfin, ça, c'est la question sur laquelle la communication de la monnaie a beaucoup porté, mais ce n'est pas nécessairement la question qui est la plus raisonnable. On ne peut pas poser cette question, évidemment. Par contre, on peut éventuellement se demander si c'est la fin de l'opéra. Voilà. Si on ne peut plus aller dans des salles pour voir des gens chanter parce qu'on doit se mettre au minimum à 3 mètres 2, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas chanter les uns à côté des autres et que donc on ne peut pas les faire jouer véritablement du théâtre, que dès lors l'opéra est impossible, on peut se demander si c'est la fin. Évidemment, je n'y crois pas, mais la question valait la peine d'être posée. Du coup, ce titre qui était là déjà bien avant, c'est un titre sur lequel je travaillais moi déjà depuis quelques mois, il a fait tout d'un coup tilt évidemment pour Peter de Grey et quelques autres responsables, et tout d'un coup, cet opéra s'est vu être la chose à faire très vite, à faire tout de suite, d'autant qu'on était prêt avec Ingrid à en faire une version streaming, une version où on aurait profité des lieux de la monnaie qui nous étaient ouverts et pas spécialement d'un public qui, pour nous, ne viendrait pas dans la salle.
Alors, est-ce que vous avez souffert de cette ambiguïté ou de cette opportunité de communication portant sur le titre et l'institution ayant largement communiqué, c'est de bonne guerre sur la question philosophique, alors que le débat Is This the End était plus intime que philosophique, peut-être?
Complètement. J'en ai pas souffert parce que je sais que c'est ça la communication. Je n'ai plus 20 ans, quoi. Donc je sais que dès qu'on lance un truc, c'est plus autant, en tout cas autant sujet à malentendu qu'à compréhension ou qu'à explication. Donc j'en ai pas vraiment souffert. Mais là où j'en ai souffert, c'est évidemment lorsque Patrick Davin nous a quittés subitement en pleine répétition.
Il faut l'évoquer, ça. Le chef d'orchestre belge, Patrick Davin, qui est vraiment le chef d'orchestre d'une génération de compositeurs, qui a accompagné énormément de compositeurs dans leur création, mais aussi dans leur travail, dans la technicalité de l'écriture lyrique aussi, devait diriger la première de Is This the End. Et quelques jours avant la première, s'est éteint sur les lieux mêmes des répétitions, qui s'apprêtait à rejoindre ses musiciens sur scène.
Exactement. Il s'est éteint de manière totalement inopinée, imprévisible. Il était en pleine forme, il était super heureux et de diriger ça et de prendre la direction à la même époque, évidemment, du conservatoire de Liège, en tout cas du domaine musique du conservatoire de Liège. Donc il était vraiment. C'est un homme qui avait eu des doutes sur son avenir dans les mois qui avaient précédé, parce que le Covid avait fait du mal à ce que sa carrière pouvait devenir assez fortement, et puis qui tout d'un coup renaissait avec des choses. Il adorait travailler la pièce que j'avais écrite pour sa direction. Et donc non, c'était un vrai moment de grand bonheur. C'était une vraie exaltation de travailler avec lui. Et je peux dire qu'effectivement, quand il est disparu comme ça subitement, j'ai eu un sentiment superstitieux de synchronicité coupable, comme si j'avais, parce que j'avais parlé de la mort, j'avais provoqué celle de quelqu'un, ou peut-être j'avais fâché les esprits, je ne sais pas. Ça a été un moment très difficile, d'autant que, je le répète, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelqu'un qui accompagnait, mais non pas seulement au sens qu'il dirigeait un accompagnement de chant, mais il accompagnait vraiment le travail. Il est venu voir comment se développait la partition. Bon, on était tous avec nos masques et tout, mais enfin, il a vraiment regardé, il a travaillé très longuement sur la correction des épreuves avec moi, et puis après, sa direction a clarifié le texte, parce qu'en fait, une partition, ça reste une chose à clarifier. Quelque part, ce qu'on appelle une interprétation, c'est aussi parfois une clarification. Simplement, les choses naissent, et parce qu'elles naissent, elles se révèlent. Par exemple, j'ai écrit des choses très difficiles pour Sarah de Vries, qui tient le rôle-titre ici, de la Dead Little Girl. Et c'est vraiment le travail de Patrick, évidemment beaucoup le travail de Sarah, bien sûr, qui a fait un boulot formidable, mais c'est beaucoup le travail de Patrick qui a rendu ça possible, en fait. La très simple et très réduite modification de tempo qui faisait qu'une chose, à la limite du possible, devenait subitement extrêmement sonnante. Enfin, il a vraiment fait tout ce travail.
Alors, dans Is This the End, on aura l'occasion d'en parler, il y a réellement deux moments d'action, celle du direct, entre guillemets, qui capte les musiciens sur le vif, c'était la première, c'était les représentations, et puis il y a toujours une phase vidéo. Question technique, est-ce que la phase vidéo a été accompagnée par Patrick Davin? Est-ce qu'on entend son geste musical dans le résultat final?
Non, en fait, enfin, oui et non. C'est-à-dire que on a dû travailler un peu à l'envers. C'était très compliqué à faire. Je ne veux pas revenir sur toutes les consignes Covid sanitaires qui sont absolument délirantes. Enfin, délirantes, je ne porte pas d'avis sur le fait de savoir si elles sont nécessaires ou non. Je dis qu'elles sont délirantes pour le travail. Simplement que des chanteurs d'un chœur doivent se trouver tous à 3 mètres l'un de l'autre. Comment on fait pour mettre 18 choristes sur une scène? Que les musiciens, particulièrement s'ils sont des souffleurs, donc des instruments avant, doivent avoir des paravents entre eux, comment est-ce qu'on fait pour avoir un son correct, et que les comédiens ne puissent pas jouer les uns après des autres, comment est-ce qu'on fait pour avoir, dans un plan, ne fût-ce qu'un plan de cinéma, comment est-ce qu'on fait pour avoir 5-10 personnes ensemble, ça a été un cauchemar. Et en même temps, enfin, je dis cauchemar, oui, parfois cauchemar, parce que les choses qui avaient été décidées, genre la veille, devaient tout d'un coup changer le jour même. Mais en même temps, c'est assez excitant d'avoir des contraintes. Hein. Chaque artiste sait que, enfin, artiste, créateur, c'est que les contraintes, au fond, sont une bonne manière de devoir inventer, d'éviter les clichés, des souhaits. Mais on a finalement travaillé de la manière suivante, c'est-à-dire que le film, donc cette espèce de vidéo qui au fond prend la partie narrative qu'on ne pouvait pas raconter sur une scène, puis ça faisait aussi, c'était projet ici de faire comme ça, la partie narrative, elle a été filmée avant que la musique, avant même que les répétitions musicales ne commencent. Enfin, elles ont commencé alors qu'on était en train de terminer le tournage. Ce qui veut dire que ce tournage a été fait sur ce qu'on appelle des maquettes qui ont été réalisées par mon assistant, qui fait ça très bien, Simon Vanesse, il a pris mes partitions et il a dit, voilà, ça va plus ou moins sonner comme ça, avec des sons échantillonnés. Et bon, là-dessus, Patrick est revenu sur les tempi, sur la vitesse d'exécution, parce que des sons échantillonnés, il peut faire tout ce qu'on veut, mais les musiciens, parfois, il fallait revoir un peu à la baisse ce qui a été fait. Donc, effectivement, il est présent dans le fait que ce sont ses tempi à lui. C'est ce que fait principalement un chef en premier, c'est de choisir au fond à quelle vitesse on va jouer les choses, ce qui va en définir à la fois le caractère et aussi l'aspect plus ou moins virtuose, etc. Donc ce sont les tempi de Patrick. Je dirais que la dernière fois qu'on a véritablement travaillé ensemble, on était ensemble dans sa loge en train de corriger ses tempi avec lui et son assistant, donc Uri Bronchli, qui a finalement repris sa direction parce qu'il pouvait le faire, parce que tout ça était déjà fixé. Les tempi étaient fixés et ils étaient fixés également sur ce qu'on appelle un clic. Alors pour les auditeurs, j'explique, quand on joue avec un film, pour être ensemble avec le film, ou bien on apprend le film par cœur, ce dont on n'avait pas vraiment le temps ici, mais ça, c'est ce qui se faisait à Hollywood jusque dans les années 80, ou bien on a un clic dans l'oreille, c'est-à-dire on a le tempo, une espèce de battue qui est donnée dans l'oreille. Alors ça n'empêche pas que le chef travaille, hein, il doit communiquer cette battue aux interprètes, il doit continuer de leur donner les entrées, continuer de préciser les balances, etc. Mais en tout cas, les tempi sont choisis à l'avance. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire, au fond, la jonction entre le film pré-filmé, pré-enregistré, on va dire comme ça, et la musique qui était jouée en direct.
C'est une chose très étrange, Jean-Luc Fachan, et ça arrive rarement dans l'histoire de compositeurs, que l'histoire se mette sur le devant de la scène par rapport à l'œuvre elle-même. Alors on pense au Sacre, par exemple, dont l'histoire sulfureuse a longtemps précédé l'œuvre elle-même. Mais comment vous sentez-vous, à titre personnel, depuis la création de cette œuvre, de parler plus des circonstances totalement rocambolesques et heureusement totalement inédites de l'œuvre que de l'œuvre elle-même?
Très franchement parler, c'est un tout petit peu difficile. C'est-à-dire que j'ai été atteint pendant les quelques semaines là, qui viennent de passer d'une certaine mélancolie qui est liée. Bon, les critiques sont très bonnes, si on veut, elles sont de bonnes à excellentes, mais il y a quelque chose qui s'est produit qui est que le cinéma, je le sais, tout le monde le sait, le cinéma empêche véritablement d'écouter. C'est-à-dire que lorsque vous regardez des images, vous n'écoutez pas avec une oreille pleine. Vous regardez en quoi la musique comble les images ou éventuellement les souligne. Ça peut vous paraître redondant, mais vous n'écoutez pas véritablement ce que vous avez sous les oreilles. Donc c'est un point relativement délicat de voir que la plupart des gens ont remarqué que, enfin, ils pensent que j'ai fait des citations, il n'y en a en fait que deux, alors qu'en réalité, j'ai cherché je crois, très profondément un style syncrétique, dans lequel il est vrai, il y a deux citations, l'une de Wagner et l'une des Doors, qui en soi est déjà relativement remarquable. Mais il n'y a pas d'autre. Il y a une minuscule citation de Queen, mais je crois que personne ne l'a remarqué. Et donc finalement, ils n'ont parlé que de ça, d'un style qui semble être un style très éclectique, alors qu'il n'y a aucun éclectisme dans mon travail. La vraie difficulté, ce n'était pas d'intégrer du rock dans une ou des instruments pop dans une partition comme celle-là. La vraie difficulté, c'était de faire en sorte que ça ne soit pas juste collé. Ce que personne, enfin, si plein de gens l'ont remarqué, mais pas suffisamment. Premier point. Deuxième point. Honnêtement, par rapport à Patrick, et par rapport au décès de Patrick Davin, le vrai problème n'est pas tant que ça ait attiré l'attention d'une mauvaise manière, on va dire. C'est-à-dire que voilà, on essayait de faire un opéra un peu fantaisiste qui pouvait faire un peu amuser, on va dire, les gens sur un sujet en apparence très sérieux, mais justement amuser sur les sujets sérieux, faire réfléchir sur les sujets sérieux, c'est la chose qui nous reste quand tout part. Comme ça, à volo. Mais on ne tenait pas spécialement à se retrouver en plein milieu de l'actualité. On a tout fait à l'intérieur de la production pour que personne n'ait à se plaindre du Covid. Ça aurait été une catastrophe que quelqu'un en tombe malade grièvement et pire encore. Et donc, voilà. Et en plus, avec Patrick, on était sur plein de projets par rapport à cet opéra. Lui avait envie de diriger les deux volets qui vont arriver. Je crois que le prochain volet est peut-être prévu pour juin. On verra. C'est en discussion pour l'instant. Et lui avait voilà, il avait véritablement envie précisément de faire entendre cette musique. Il disait, ben voilà, on va aussi la jouer en oratorio, comme ça on trouvera l'occasion, les gens pourront l'entendre véritablement. Et bien sûr que sans son impulsion, sans son envergure, ça n'aura pas lieu. Donc c'est vrai que pour moi, c'est relativement difficile. Voilà. Relativement difficile. À côté, c'était un tel plaisir de le faire. Pendant que des tas de gens ne faisaient rien, je suis tellement content d'avoir donné du travail, même si beaucoup de ces gens étaient déjà payés, même s'ils ne faisaient rien. Et c'est une des grandes qualités d'ailleurs de la maison et de cet orchestre et de ce chœur, c'est qu'en fait, la plupart de ces gens étaient payés pour ne rien faire et qui sont venus avec un tel enthousiasme pour défendre cette pièce. Ça a été un immense plaisir, du début jusqu'à la fin, y compris d'ailleurs leur protestation de vouloir absolument aller jusqu'au bout. Au moment où moi j'étais réduit au silence et où Patrick n'était plus là, de dire on doit continuer, qu'il y a eu une telle unanimité, il y a eu des moments d'une très très grande exaltation, d'un très grand enthousiasme. Mais c'est vrai qu'après, bon, vous savez, un opéra, quand on crée un opéra, il y a beaucoup de gens qui viennent, ça fait énormément de bruit. Et ici, il y a eu énormément de bruit, j'ai reçu des centaines de messages enthousiastes, mais en fait je n'ai vu personne. Il y avait personne pour me dire c'était super. Donc c'était ça, c'est quand même bon. Alors après, il y a l'imbécile dominant, je le dis tel quel, qui sort un petit article pour dire oh oui, rock, c'est quand même plus amusant d'aller à l'opéra. Mais il est con, quoi. Justement, on peut pas y aller, c'est pour ça qu'on l'a fait. Franchement, il faut pas sauter du monde. Donc oui, bien sûr, on le sait que c'est plus amusant d'aller à l'opéra. Et pour moi, ça aurait été plus amusant que ce soit un vrai opéra aussi. Mais c'était le deal et on l'a fait comme ça. Bon, voilà. Bien. Il faut admettre que les gens ne sont pas toujours tellement malins, en fait.
Jean-Luc Fabchamp, je me permets de revenir à ce que vous disiez, qui pose une question quasiment fondatrice par rapport au genre lui-même, c'est que quelle est la capacité de réception du public quand on est face à une création? J'étais toujours très étonné de voir qu'un critique pouvait sortir d'une création mondiale qui avait pris 3 ans à son compositeur et d'avoir un avis définitif dès le lendemain. Mais il est vrai que quand on découvre Is This the End pour la première fois, On est face à une proposition musicale qui est la vôtre, on est face à une interprétation qui est celle des musiciens, on est face à une création visuelle qui est celle d'Ingrid von Vantoche, on est face à une création vidéastique qui est celle du vidéaste, on est face à un livret. Quelle est notre capacité d'assimiler autant d'informations en une heure?
Je pense qu'effectivement, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. C'est compliqué parce que la raison pour laquelle j'ai choisi une expérience syncrétique, qui n'est pas, c'est une forme stylistique assez belle, mais c'est aussi le type de travail que je pratique depuis très longtemps dans les lettres soufis. C'est aussi parce que je pense que toutes les musiques différentes qui sont soi-disant se combattent dans ce début du XXIe siècle. Je crois pour ma part que quand on les verra à 20 ans de distance ou à 30 ans de distance, on dira oui, ben ça c'est la musique des années 20, quoi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que moi je continue à considérer que cette musique vaut mieux qu'une autre. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'exprimer. Et donc dans un opéra, c'est bien le sens même de l'opéra, c'est se demander qu'est-ce que la musique est capable d'exprimer à partir du moment où il y a du texte, une narration, éventuellement une action. Donc, je pense que c'est relativement compliqué, bien sûr. Moi, j'ai été très frappé, bien sûr qu'il faudrait, je ne voudrais pas faire le travail de critique, voilà. Donc, j'ai été un peu sévère par rapport à l'un d'entre eux tout à l'heure, juste parce que je trouve que l'exercice était, comment est-ce que je pourrais dire, extrêmement superficiel par rapport à l'effort que nous avons fourni. Mais
Ce qui
bon,
pourrait être la définition de toute critique en tant que telle, d'ailleurs.
à fait. Indépendamment de ça, effectivement, la critique est assez difficile. Moi, je crois que ce qui m'a le plus touché, finalement, il y a eu je crois que les critiques d'opéra sont grosso modo formatées pour ne pas être très ouvert a priori à ce qui va être trop nouveau. Bon, je le dis comme ça. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas tort, c'est-à-dire que c'est probablement un art. C'est un peu comme le symphonisme, ce sont des arts qui sont fondamentalement, en ce qui concerne l'opéra, encore très fortement du début 20e, mais on est obligé de trouver des voies nouvelles. Et en ce qui concerne le symphonisme, très fortement ancré dans le 19e. Et donc, ils n'ont pas tort de penser qu'il y a un certain danger dès que quelqu'un de moderne s'y attaque, parce qu'on ne peut pas envisager ces formes sans se poser la question de ce qu'elles sont et de comment les revivifier. Et donc, nécessairement, s'ils adorent Wagner, ils vont pas avoir la même chose en venant écouter du Farchamp. Sans compter la différence de génie éventuelle. Mais donc, c'est clair que j'ai quand même été extrêmement, extrêmement content parce que, à franchement parler, on n'écrit pas un opéra pour les spécialistes de l'opéra. Ce serait ridicule. Parce qu'en fait, eux, ils sont spécialistes, ils savent à quoi s'attendre. Il n'y a pas moyen de les surprendre, en quelque sorte. On écrit un opéra pour les gens, pas nécessairement tous les gens, mais pour des gens qui peuvent l'aimer. Moi, j'étais extrêmement content parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes gens, quoi, parce que c'était un peu le public que je visais, pas les tout jeunes, parce que je peux pas, je veux dire, j'ai pas 30 ans, donc j'ai plus de 30 ans, donc c'est pas la peine d'essayer, mais je veux dire des gens qui, au fond, ne sont pas spécialistes de l'opéra et qui y allaient parce que c'était moi, ou parce qu'ils avaient envie, ou parce que leurs parents leur disaient, regarde un peu ça. Et beaucoup, je ne dirais pas tous, parce que je ne sais pas tous les gens qui regardent, et beaucoup m'ont dit, mais c'est incroyable, on se disait l'opéra, ça va nous gonfler, et en fait, on n'a pas su quitter le truc pendant. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est qu'ils ont vécu ça effectivement comme un genre de film passionnant. La musique leur a paru très chouette, et ils ont regardé de bas jusqu'à la fin. Donc pour moi, quelque part, j'ai rempli mon contrat.
Je comprends que vous répondiez par rapport aux critiques en tant que telles, mais ma question était plus large. Est-ce que le créateur s'interroge sur la capacité de réception, sur cette buffer zone, que serait le cerveau humain quand il y a une proposition qui est, tellement large, par exemple? Est-ce que c'est un des ingrédients avec lesquels on opère?
Oui, bien sûr. Enfin, on a tous opéré avec cette question, aussi bien Ingrid, Eric que moi. Même si on peut même considérer que le livret est assez simple et même peut-être presque trop simple. On a travaillé sur un début de scénario extrêmement restreint parce qu'il va se passer beaucoup plus de choses dans le volet 2 et 3. D'autre part, oui, certainement, il y a un style auquel il faut s'habituer. Il y a énormément de choses différentes qui apparaissent. Ouais, c'est clair que, en fait, ce qu'on voulait, c'est mettre l'auditeur et spectateur dans quelque part un peu dans l'état d'esprit de cette gamine complètement perdue qui arrive là dans un univers éclaté qui lui saute au visage. Et donc, dans cette mesure, on a évidemment pensé à ce que ça allait produire, mais on comptait bien que ça produirait quelque chose d'un peu halluciné. Oui.
Alors, ce qui est très intéressant dans cette pièce et dans votre manière de la réaliser, c'est qu'on a beaucoup d'oppositions. On a le monde du présent, on a le monde parallèle, enfin, l'au-delà quelque part. On a aussi ces deux temps qui sont le temps de la scène, le temps de la vidéo. Et puis on a ces deux chants, le chant lyrique incarné par vos deux chanteuses lyriques, et puis un son pop qui pourrait rappeler Radiohead ou Guinzou, ou bien tout ce rock progressif qui vous a bercé, j'imagine, dès l'adolescence. Comment est-ce qu'on fait cohabiter, déjà rien que musicalement et techniquement, ces deux écritures qui sont quasiment diamétralement opposées?
Bah, vous avez raison de dire écriture, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça cohabite. C'est exactement ce que Patrick m'avait dit, alors qu'il était encore seulement en train de lire les partitions que je lui envoyais bout à bout. Il me dit, mais écoute, voilà comment tu fais pour lier le rock à des musiques plus contemporaines. C'est qu'en fait, le rock est écrit aussi. Et puis, il me disait, en corollaire de ça, mais comment est-ce qu'on va faire avec Amaury, pour qu'Amaury arrive à chanter ses trucs, ses rythmes dingues, etc. Et là, c'est le mérite d'Amaury d'avoir travaillé comme un fou pour le faire, parce qu'effectivement, il chante avec une voix qui est une voix pop, mais lui ne chante jamais des chansons pop. Celle qui chante des chansons plus pop, c'est en fait Sarah, en tout cas dans ce volet de l'opéra. Donc effectivement, l'idée, c'était que, contrairement à ce que font généralement les compositeurs qui essayent de mêler ces deux genres musicaux, parce qu'il y a plein d'expériences, hein. Depuis Atom Earth Mother, Quadrophenia de Who, enfin, on a plein d'exemples où on a essayé ça depuis très longtemps, et encore bien plus récemment, Peter Gabriel ou même Sting qui ont sorti des disques symphoniques. Donc les exemples existent. Mais le plus souvent, ce qui se passe, c'est que pour mélanger musique contemporaine et rock, on vient faire un peu comme Prokofiev le faisait, c'est-à-dire on vient en quelque sorte saupoudrer un peu de dissonance dans de la musique pop. En réalité, ce n'est pas du tout la manière dont j'ai pratiqué. J'ai mis la musique pop comme en superstructure d'une musique fondamentalement dissonante, et fondamentalement, on va dire, contemporaine au sens où il s'agirait d'une esthétique, même si cette esthétique est largement explosée, je crois, aujourd'hui. Donc, en fait, il s'agit d'une esthétique qui est comme un genre de vortex qui tourne en permanence, et dedans viennent affleurer, comme s'ils étaient emportés par certaines surfaces de ce vortex, ou apportés, mis à jour, viennent apparaître des musiques qui sont comme des citations, comme des musiques exogènes, mais elles sont à l'intérieur même du vortex. C'est comme ça que j'ai travaillé. C'est la raison, c'est très écrit, en fait. Si ce n'était pas écrit, ça ne marche pas.
C'est très intéressant que ces deux univers continuent à se regarder en chien de faïence, parce qu'on peut regarder et superposer les phases d'expérimentation de la musique dite classique en commençant dans les années 10, donc il y a un peu plus d'un siècle, et puis voir que même avant les Beatles, des compositeurs se soient lancés dans des phases totalement d'expérimentation. Est-ce qu'on peut lier ça à la consommation ou non du LSD de part et d'autre? Ça, c'est un débat dont je vous laisserai la responsabilité. Mais comment ça se fait que il semble toujours incongru de tuiler ces deux univers?
En fait, ça marche un peu mieux avec des univers comme ceux que moi j'ai choisis ici, parce qu'on pourra. Je m'attendais à ce qu'on m'objecte que pour parler d'une jeune fille, j'ai finalement utilisé, pastiché ou en tout cas intégré des effets plutôt de musique de progressive des années 70. C'est une drôlement vieille jeune fille. Je m'attendais à ce qu'on me dise pourquoi pas de rap. Parce qu'avec le rap, c'est assez compliqué. En l'occurrence, ici, ça marche aussi parce que c'est déjà deux musiques classiques. Pour les gens de ma génération, et même les plus jeunes, j'ai des étudiants au conservatoire qui viennent me parler de Pink Floyd ou de Genesis. Pour tous ces gens, en fait, c'est devenu de la musique classique, c'est la musique de leurs parents. C'est comme pour nous, quand nos parents mettaient Beethoven, ils disaient, ah ben oui, c'est la musique des parents. Moi, j'ai adoré la musique de mes parents. Il y a de mes élèves qui adorent la musique de leurs parents aussi. Mais c'est des classiques, c'est plus ce qui se passe, c'est plus ce qui se vend, c'est plus ce qui passe à la radio. Ce n'est plus ce qui est supposé s'adresser directement à la génération. Tout ce qui est classique, ou qui est classifié, on va dire, tout ce qui a cette espèce de lustre de l'ancien qui a passé l'épreuve des ans, peut aider les gens à savoir ce qui a du sens. C'est le sens même du mot classique, non? C'est quelque chose qui peut servir de modèle, qu'on mettra éventuellement dans un musée pour le regarder et pour trouver que c'est bien. Alors moi, j'essaie que ça reste pas dans les musées, mais je suis tout à fait conscient que ça en vient. et donc qu'il faut revivifier ça d'une nouvelle manière. L'autre point qui pose problème, je crois, dans ce mélange, c'est qu'il y a encore pas mal de gens qui ont connu la guerre de l'époque entre les chevelus et les bien rasés. Donc effectivement, et qui se disent, voilà, oh là, c'est encore une fois, on veut venir imposer à nos si belles musiques, nos musiques si dignes. Beethoven était traité de naturaliste de son temps, ça voulait dire grosso modo un compositeur pop, quoi, un gars qui faisait de la musique sans trop savoir ce qu'il faisait. Beethoven, c'est dingue de penser ça, mais c'est comme ça. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui font des trucs, qui vont faire des trucs nouveaux, et on va se dire, oh là là, ça met tout par terre. Et le troisième point, c'est sociologique, essentiellement en fait. C'est-à-dire que la guitare électrique, ce n'est pas encore un instrument de la haute société, de la belle société. Alors, maître, oulala, qu'est-ce qui va se passer? C'est purement sociologique. Et ça demeurera, il y aura toujours des musiques où les gens diront, on fait ça chez nous, tranquillement, sans trop savoir ce qu'on fait, parce que c'est la musique qu'on aime et qu'elle est super fun. Et puis de gens qui diront, vous m'attendez, les gars, il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Il faut aller plus loin. On ne peut pas se contenter de répéter à l'infini les mêmes clichés. On doit chercher, on doit inventer, on doit apporter. Et on n'a pas toujours raison. Hein. Peut-être que ceux qui prennent leur guitare, comme Jimi Hendrix, inventent plus que ceux qui prennent leur série de décaphoniques. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est la première, mais il y a ceux qui travaillent en connaissance de cause et puis ceux qui prennent leur truc et qui le font pour le fun. De temps en temps, on se rencontre, mais c'est pas obligé parce que c'est deux mondes sociologiquement différents, qui fonctionnent différemment, avec des gens différents, qui croient qu'ils doivent effectivement ne pas s'entendre.
Est-ce que ce n'est pas notre quotidien, finalement, de consommateurs culturels, d'être confrontés à des dizaines de cultures différentes à toutes les heures de la journée?
Certes, mais il ne faut pas oublier que notre identité se définit souvent plus par ses refus que par ses accueils. C'est d'ailleurs un des gros problèmes quand on commence à parler d'identité nationale, c'est qu'il est souvent question beaucoup plus de refus que d'accueil. Pour moi, une identité, c'est le point de départ d'un accueil, ce n'est pas le point de départ d'un refus. La plupart des gens, ils croient qu'en refusant, ils ont plus de personnalité.
Vous avez été confronté au refus dans votre carrière sous ces différentes formes?
Pas fortement, en fait. C'est vrai que je ne voudrais pas non plus avoir l'air ici de porter le discours du gars super d'avant-garde, parce que ce n'est pas moi non plus. Et donc vous avez raison avec cette question. En fait, pas très fortement. C'est le plus dur, c'est précisément parce que à cause de ça, je n'aime pas tellement les avant-gardes qui disent je refuse tout ce qu'il y a eu avant, j'ai fait autrement. Moi, ce que j'aime, il y a des musiques que j'aimais bien, j'avais envie de faire plus ou moins pareil, d'aller au-delà, mais enfin de faire ça, j'avais envie d'écrire ce qui est déjà en soi très classique aujourd'hui. Donc je ne suis pas spécialement un avant-gardiste destructeur. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas énormément de gens qui m'ont boudé. C'est plutôt, j'ai été de ce fait très largement incompris. C'est-à-dire, mais je n'en souffre pas, hein, mais ça m'amuse quand même parfois. Je veux dire, ça m'amuse qu'on puisse penser que je mélange juste parce que j'ai le plaisir de mélanger. Non, je mélange parce que pour moi, tout est pareil, tout est dans tout, et qu'il faut absolument rappeler que tout est dans tout.
Deux choses, si vous permettez. Premièrement, en tant qu'intervieweur, vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez dit, vous avez raison avec votre question. Ce qui peut sembler paradoxal, vu que quand on pose une question, a priori, on n'a pas de point de vue ni de thèse. D'autre part, sur le plaisir de mélanger, vous le définissez comme quelque chose qui pourrait être diabolisé, alors qu'on touche quasiment à quelque chose d'enfantin, le plaisir de mélanger. On pense à tous ces petits jeux qu'on fait avec la terre, avec la pâte à modeler quand on est petit. Mélanger, que ce soit des choses anodines comme de la terre ou des choses essentielles comme des éléments culturels, ça doit être incroyablement jouissif.
Oui, c'est vrai. Moi, ça me rappelle quand on jouait avec la plasticine. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'elle nous prend.
Bah, oui.
Les plasticines. Et alors, ce qui était terrible, c'est qu'au départ, on avait des plasticines de différentes couleurs et on pouvait au départ les mélanger sans qu'elles se fusionnent complètement. Et puis, au bout d'un certain temps, ça finissait par faire une espèce de couleur grise générale. Et donc, oui, on peut tout mélanger, c'est un plaisir, mais il faut s'arrêter à temps. Et en réalité, la plupart des gens ont des notions différentes de ce que c'est que s'arrêter à temps dans les mélanges. Et puis, par ailleurs, pour ce qui concernait votre marque rhétorique, je pense que souvent les questions sont plus intéressantes que les réponses. Et donc, en l'occurrence, ici, dans notre conversation, je pense que c'est vous qui avez le beau rôle, parce que vos questions sont plus intéressantes que mes réponses, définitivement. Et tout.
Moi, je m'en défendrai bien, heureusement d'ailleurs. Mais Jean-Luc Fachan, revenons un instant à la forme, parce que y a une réflexion très intéressante sur quasiment le chapitrage dans cette œuvre, à savoir que on pourrait imaginer qu'on est dans une série de petites scénettes ou de plans-séquences extrêmement abruptes. Comment est-ce que vous avez dessiné l'arc dans quelque chose qui est quasiment un jeu de dés?
Oui, effectivement, très, très bien observé. Je voulais absolument pas faire un opéra berlin ou post-wagnérien, un récitatif continu. Je voulais qu'il puisse y avoir des airs, des danses. Quelque part, mon modèle, c'était plutôt le masque. Voilà, c'était plutôt Purcell, quelque chose comme ça, même si que ça s'entende ou non, c'est pas le propos. Mais donc, je voulais que ça puisse effectivement avoir un effet domino. Par ailleurs, il n'était pas non plus question que ça soit juste complètement une succession de numéros vraiment au sens strict. Donc en réalité, il y a des liens assez forts. On a envisagé le sujet, qui est donc le sujet de quelque part la vie après la mort ou de l'immédiate vie après la mort, on l'a envisagé selon plusieurs angles. Le premier angle était fourni par un bouquin de Philippe Dick qui s'appelle Ubique et dans lequel les gens sont morts sans le savoir. Et puis ils font des actions, mais ils sont un peu étonnés du fait que leurs actions n'ont pas nécessairement les résultats escomptés et que même le réel semble grosso modo s'effriter dans leurs doigts. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le deuxième axe était un axe qui est issu des bardos, en fait, les états intermédiaires tels qu'ils sont décrits dans le livre des morts tibétains. Et on a travaillé sur les différents niveaux d'états intermédiaires et ça nous fournissait un certain nombre d'étapes. Alors on a croisé donc je dirais un nombre d'étapes, donc des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Grosso modo, on en est assez souvent dans la question presque du septième ciel ou de l'échelle de Jacob avec ses sept. On est toujours autour de cette question du 7. On a d'ailleurs croisé ça ensuite avec une autre question concernant je dirais la vie directe après la mort, mais est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? C'est en fait ce qu'on appelle les états de mort imminente, qui est un titre assez mal choisi, un terme assez mal choisi, ou les near-death experience, comme on dit en anglais. Ce sont tous ces gens qui meurent et puis qui en fait reviennent. On en a d'ailleurs
C'est le
partout.
tunnel, la lumière blanche.
Exactement, le tunnel et la lumière blanche. Sauf que notre ado, ici, elle n'a pas la chance d'aller jusque-là, mais voilà. Donc on a travaillé au départ de ça. Et enfin, on a croisé ça avec pour dire que on a travaillé, hein, faut pas croire, mais tout ce travail-là était déjà fait avant qu'on commence à travailler spécifiquement ici en mai pour avoir un opéra en septembre. C'est parce que c'était déjà prêt qu'on pouvait. Tout notre appareillage conceptuel était là. Donc on a enfin croisé ça avec les différentes étapes ou les différents numéros du Requiem chrétien, en l'occurrence, qui nous a fourni aussi. D'ailleurs, ici, trois des pièces, puisqu'il y a une Paradisum, qui n'est pas obligatoire dans le Requiem, mais enfin que j'ai mis ici carrément au début, et puis il y a effectivement un Dies Irae et un Communio pour finir. Donc on a fait quelques airs particuliers de ce truc, mais toujours avec des paroles un peu détournées, on va dire. C'est comme ça. Pardon?
Et croisé avec l'architecture même des lieux, vu que une parasite d'Izum est incarnée par la mezzo-soprano qui habite le paradis de la maison d'opéra, à savoir tout en haut.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de. Oui, il y a quelque part des jeux de mots visuels, presque, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Ça paraissait évident de la mettre là, ou trop évident, on ne sait pas. On l'a quand même fait après moult hésitations, parce qu'effectivement, Alban, avec son immense robe rouge, était tellement brillante là-haut que ça nous a paru une évidence après l'avoir tenté, quoi.
Jean-Luc Fafchamp, finissons par ceci, parce que vous évoquez cette œuvre sur la vie après la mort. Et en même temps, vous évoquez la condition du créateur qui, privé de son public, serait contraint d'accoucher quelque part dans le monde cybernétique, sans contact humain, sans retour épidermique. Comment est-ce qu'on se sent en tant qu'auteur après un tel accouchement? Parce que j'ai eu l'impression que, quelle que soit la prestation de l'artiste, qu'il vienne de jouer devant 3000 personnes et qu'il ait été congratulé, l'état de solitude, quel que soit l'accueil, est toujours abyssal après.
Oui, c'est probable. C'est probable que l'état de solitude est toujours abyssal. En réalité, je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, Il y a probablement dans les raisons pour lesquelles je continue inlassablement de proposer mes petites créations à mes contemporains, il y a sans doute le désir d'un amour qui n'existe pas en fait, et qu'on ne reçoit jamais, bien sûr, quel que soit celui qu'on croit donner. Et oui, donc c'est vrai que sans doute finalement cette solitude cybernétique et virtuelle n'était pas pire que d'autres que j'ai connues par le passé.
Et il y a quoi que ce soit qui tende à y remédier?
Faire une autre œuvre, continuer, c'est la seule chose qui peut y remédier et repartir dans l'exaltation. Et puis en même temps, le très faible lien qui psychanalytique, on pourrait presque dire, qui reste avec cet amour inatteignable, ce très faible lien s'estompe dès qu'on se met à travailler. C'est jamais
Merci Jean-Luc Fachan. Désolé de la qualité sonore qui est désormais consubstantielle à ces interviews en non présentiel, auxquelles il faudra bien s'habituer parce que ça fait partie des nouvelles normes. Merci donc. Je rappelle que Is This the End est à voir gratuitement en streaming, naturellement, sur le site de La Monnaie, www.lamonnaie.be, ou si on a des affinités avec la langue flamande, c'est www.demunt.be.